Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 8h46, n'oubliez pas, Revel en campagne, juste après 9h, sera avec nous, c'est le grand retour. Et puis Thierry Guerrier, notre éditorialiste du jour. Et en attendant, les grands débats ce matin. Comment s'en sortent les parents d'élèves face au casse-tête du nouveau protocole sanitaire des appels à la grève? Najat Belhassen est avec nous, coprésidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Oui, je le disais tout à l'heure, pendant ce week-end, on a vu beaucoup de parents avec leurs enfants aller bien dans des files d'attente pour faire des tests avant l'école. Alors, le protocole a été revu, un peu allégé. Et ça a arrangé les choses ou pas du tout?
Non, ça n'arrange pas les choses. Il a été léger, enfin, il a été revu très très légèrement. Modifié, mais en fait il ne change pas réellement. Donc la problématique, si vous voulez, qui subsiste, c'est qu'aujourd'hui on a lancé un protocole sans anticiper les moyens supplémentaires en amont pour pouvoir faire tester les gamins dans les pharmacies.
Bah oui.
Et aujourd'hui, aujourd'hui on se retrouve avec une situation inédite. On a des absences d'enfants dans les écoles, mais vraiment en nombre. Ça n'est pas arrivé depuis le début de la pandémie.
Et pourquoi ces absences? Alors, parce qu'ils sont soit cas positifs, soit cas contact, soit ils n'ont pas eu le temps de se faire tester. Pourquoi?
Les deux. En fait, c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on a les cas où les enfants sont déclarés cas contact. Les parents, eux, ne souhaitent pas faire tester trois fois dans une semaine, et ça se comprend, hein, surtout sur des petits, leurs enfants, même avec des autotests. Ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de test salivaire dans les écoles. Ça, c'est aussi une grande interrogation.
Mais
des parents.
C'est fiable, les tests salivaires sur les enfants? Quels sont les retours?
Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, si l'éducation nationale les a instaurés à un moment donné dans les écoles, c'est que c'était fiable,
De
le faire. Parce que sinon c'est qu'on a un problème plus scientifique.
Non, mais c'est vrai, Et c'est beaucoup plus simple, quoi, ces tests salivaires. Ouais.
C'est beaucoup plus simple, c'est moins intrusif. Et puis après, on a la problématique aussi des parents qui, eux, ne gardent leurs enfants à la maison parce qu'ils peuvent les garder en isolement et qu'eux-mêmes sont cas contact. Mais on a énormément de parents qui, aujourd'hui, moi j'ai encore ce matin, vous voyez, avant de prendre votre appel, j'ai une maman qui me disait, moi je suis en période d'essai, je ne sais pas comment je vais faire cette semaine.
Ouais.
Ça fait 3-4 fois qu'elle est absente et elle est en panique totale parce qu'elle est en période d'essai. Donc les parents craquent en fait. Tous les parents ne sont pas en télétravail et c'est pas vrai, même en télétravail, garder ses enfants à la maison, c'est pas du télétravail. Donc
C'est vrai que chaque jour, finalement, c'est un peu il y a comme un coup près, quoi, quand on va faire le test et puis dépister son enfant, s'il est positif ou pas, s'il y a eu des cas dans sa classe, quoi. C'est une véritable interrogation, quoi.
C'est exactement ça. Puis alors là-dessus, vous rajoutez le fait qu'on a quand même des enseignants qui sont absents parce que justement ils sont malades également, ce qui est normal, mais qui ne sont pas remplacés. Donc du coup, les classes, on arrive devant la grille. La peur des parents, c'est d'arriver devant la grille de l'école et de devoir soit retourner pour tester son enfant, soit de se dire que la maîtresse ne sera pas là et non remplacée, donc son enfant ne pourra pas aller à l'école.
Ouais.
Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça tous les jours.
Alors, quelles pourraient être les solutions, Najat Belhassen, à la FCPE? Qu'est-ce que vous demandez?
Eh bien, écoutez, nous, ça fait déjà quelques mois qu'on demande plusieurs choses. Déjà, on sait que l'école n'est pas équipée, matériellement parlant, pour respecter les gestes barrières. Et ça, depuis le début de la pandémie, les scientifiques le disent, les gestes barrières sont essentiels. Aujourd'hui, on a des écoles dont les fenêtres n'ouvrent pas. Donc, il faut installer des purificateurs d'air. Il faut aussi installer des capteurs de CO2. Il y a eu du budget débloqué, sauf que ça ne suffit pas. Les collectivités, elles, ce qu'elles disent, c'est que ça n'est pas suffisant pour équiper toutes les écoles. Donc, il faut que ce soit pris en charge par la puissance publique. Les savons, j'en parle même pas, mais il faut aussi installer des lave-mains, parce que les enfants, en fait, ont besoin de se laver les mains assez régulièrement pour éviter, justement, la propagation du virus. Et puis, évidemment, les remplaçants qui doivent remplacer, en fait, les profs absents, manque parce qu'on est dans une situation inédite et on n'a pas rajouté deux professeurs remplaçants en plus.
Ouais,
et là, vraiment, enfin voilà, il y a...
Alors, est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à refermer l'école, le temps que cette vague passe ?
Ben, écoutez, nous, on a toujours été, et c'est marrant que vous posiez la question, parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment là-dessus, fermer l'école, qu'est-ce que les parents vont faire ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on va faire, en fait ? Nous, en tant que parents, on sort d'une crise, là, il y a des parents qui sont dans une situation précaire énorme, ils ne vont pas travailler. Ben alors, le désordre, en fait, désordre qui est actuellement en train de s'instaurer au niveau sociétal va continuer. Et on ne parle pas beaucoup des transports scolaires, mais les transports scolaires, c'est une catastrophe aujourd'hui.
Mmh, ouais. C'est vrai, ça fait partie des problèmes. Donc, il est urgent, visiblement, qu'on se réunisse de nouveau autour d'une table, peut-être pour essayer de prendre de nouvelles mesures. Mais en tout cas, merci, hein, Najat Belhassen, coprésidente de la FCPE. Et on comprend ce casse-tête pour les parents. Alors, on comprend aussi le casse-tête, évidemment, pour les autorités, allant du ministre aussi à l'ensemble des responsables de l'éducation nationale. Mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être un petit peu de simplification sur deux, trois points à prendre, tels que vous l'avez dit, les tests salivaire. Merci. En tout cas, avec vous, Félix Mathieu, ce matin, on voit dans le factuel ce qui a été décidé par le gouvernement pour pouvoir continuer à dépister massivement le Covid, hein, Félix.
Oui. Oui, le gouvernement va encourager l'ouverture de centres de dépistage éphémères qui seront près des centres de vaccination avec ce but, permettre tout simplement aux professionnels de tester lorsque la cadence ralentit côté vaccination. Une mesure qui pourrait permettre de créer plusieurs centaines de nouveaux centres de dépistage. C'est du moins ce qu'espère le gouvernement. Autre mesure, permettre aux pharmaciens de créer leur propre petit centre de dépistage en recrutant temporairement des professionnels de santé. Élargir aussi la liste des personnes autorisées à procéder aux tests, notamment les étudiants en master biologie moléculaire et cellulaire qui pourraient demain effectuer les prélèvements ainsi que les analyses. Enfin, les pharmacies devraient recevoir 10 millions d'autotests en plus des 6 millions qu'elles ont déjà en réserve. Le gouvernement espère, comme ça, il s'engage d'ailleurs au passage à rembourser aux pharmaciens les tests invendus. Ce afin de lever aussi les réticences des pharmaciens qui pouvaient craindre de rester avec du stock sur les bras.
Oui, merci Félix Mathieu. C'est un véritable casse-tête pour les autorités, pour Jean-Michel Blanquer, hein, Thierry Guerrier, l'école.
L'objectif du ministre de l'Éducation, c'est de maintenir l'école ouverte le plus possible. Alors, je n'ai pas la qualité pour juger de l'efficacité ou non des protocoles, des processus lancés. On voit bien que le gouvernement parle dans tous les sens en ce moment. Moi, je suis assez intéressé par la stratégie israélienne. On a vu depuis hier soir que Israël, qui est dépassé, alors qu'ils avaient fermé leurs frontières, qui est dépassé par le nombre de cas Omicron, qui se multiplie de façon considérable, des centaines de milliers, hein. Israël a rouvert ses frontières hier, finalement en choisissant de se concentrer sur les personnes à risque. Test, en effet, pour essayer de savoir, et puis surtout vaccin et isolement des personnes à risque quand il y a une vraie... Alors qu'est-ce que c'est que les personnes à risque ? C'est les personnes très âgées ou les immunodéprimés ou ceux qui ont des difficultés de santé connues. Voilà, peut-être que c'est une voie. On est souvent à la traîne d'Israël et derrière, on applique assez souvent
ils ont un temps d'avance, quoi.
Y compris pour l'école.
Mais
l'objectif de Jean-Michel Blanquer, c'est bien de la laisser ouverte.
Ce qu'on disait à l'instant. Allez, on poursuit avec vos réactions au 0826-300-300, Cécile.
Et c'est Christine qui nous appelle d'Ardèche. Bonjour Christine.
Oui, bonjour Christine.
Oui. Oui, bonjour Cécile et bonjour Patrick. Bon, je vous présente mes meilleurs voeux. Je dis
pas ah bah,
nous aussi. Parce que...
oui, c'est vrai, nous aussi. Hein.
Ah, voilà.
Bon, on a encore 15 jours, 3 semaines pour présenter ce vœu, voilà. Jusqu'à la fin du mois de janvier.
Oui. D'accord. Alors, je ne sais pas trop sur quel sujet...
Vous vouliez réagir autour peut-être de la vaccination, hein, je crois,
oui,
Christine.
Oui, autour de la vaccination. Moi, ce que je voudrais savoir quand même, c'est toutes ces personnes qui vont en réanimation, pourquoi de temps en temps, on ne nous dit pas la moyenne d'âge qu'ils ont ? Parce que nous, en tant que... devant la télé ou à la radio, on entend qu'il y a tant de morts, il y a tant de personnes en réanimation. Mais ils ont quel âge ? Parce que si ce sont des personnes de 80 ou 90 ans... Je veux dire, ça change tout, ça, quand même.
Oui. C'est vrai. Alors, il y a des personnes âgées, mais il y en a aussi des plus jeunes.
Une personne de 80 ans, elle n'a pas la même qualité qu'une personne de...
Mais ce qu'elle veut dire, c'est...
Ne détournez pas ce que j'ai dit,
franchement.
Oui, Thierry. J'avoue que ça m'a fait réagir. J'avoue que c'est pas...
C'est parce qu'il est âgé, c'est pour ça qu'il vous dit ça.
Si vous voulez, j'assume.
J'ai 71 ans, alors, vous voyez.
Non, mais ce que vous voulez savoir, et pour préciser votre question, vous voulez dire quelles sont les personnes, effectivement, et est-ce que comme disait finalement Thierry, c'est-à-dire les personnes plus à risque, il faut un peu plus les surveiller.
Voilà, je me suis mal exprimé peut-être, oui.
Oui, oui, mais bien sûr, ouais, on comprend, ouais, totalement. Ouais.
Voilà, parce que, c'est pas que je veux pas,
Vous êtes vaccinée ou pas, Christine ?
Ben voilà le problème,
je suis pas c'est-à-dire vaccinée. Ah, vous n'êtes pas vaccinée.
Oui. Non, je vais vous dire pourquoi je ne me fais pas vacciner. Ouais. Moi, je fume. Et alors, depuis le Covid, là, j'avais pratiquement arrêté de fumer, j'ai recommencé à fumer. Et j'ai un risque de thrombose. Bon, je ne suis pas calée en médecine, hein, mais je suis prête à me faire vacciner parce que là, j'en peux plus, je ne peux pas aller à la bibliothèque.
Ouais, c'est ça. Vous en avez parlé avec votre médecin généraliste, parce que le problème, il est là. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se disent, oui, j'hésite aussi parce que moi, je peux avoir telle chose qui se déclenche, je suis allergique, etc. Et parfois, ça passe par une discussion avec votre médecin. Qu'est-ce qu'il dit ?
Ben, mon médecin, il me dit que quand même, vu l'âge que j'ai, je ferais mieux
de
me faire vacciner. D'autant plus que ma fille, qui a 40 ans, elle vient d'attraper le Covid, là. Pourtant, elle fait attention, hein, elle travaille et tout. Bon, pendant les 3 premiers jours, alors elle est à l'inverse de tout le monde. Ouais. Pendant les 3 premiers jours, elle m'a dit, maman, ça va pas durer, par téléphone, hein, on se voit pas. Elle me dit, ça va pas durer longtemps parce que je suis bien. Et hier, elle m'appelle complètement catastrophée. Elle me dit, j'ai des courbatures, j'ai mal partout. Alors qu'elle est là depuis le samedi.
Ouais,
donc, elle me dit, ça devrait s'améliorer. Bon, elle a pas peur parce qu'elle a eu ses 2 doses.
Non, mais c'est assez étonnant. Il y a parfois, j'ai eu l'exemple ce week-end d'une famille qui me disait, voilà, où ils ont, toute la famille a eu le Covid. L'épouse, elle a vraiment morflé, pour reprendre cette expression.
C'est malheureux.
Alors que son mari n'a quasiment rien eu, et les enfants, alors l'un des deux enfants un petit peu plus touché, et puis l'autre moins. Comme quoi, tout dépend évidemment aussi de sa constitution, de sa défense immunitaire, beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses.
Moi, je voulais poser une question.
Oui.
Toutefois, il y a des médecins là dans votre.
Alors non, là, il n'y a pas de médecin aujourd'hui. Mais
amateur.
Mais quelle était votre question quand même ?
Bon, moi, je suis beaucoup partie à l'étranger quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire 40, 45 ans, et je prenais de la Nivaquine, je crois que c'est, je ne sais pas le nom, contre la fièvre jaune ou je ne sais pas quoi. Et j'ai été vaccinée contre la fièvre jaune. Bon. J'ai pas fait d'études de médecine, ça va s'entendre à ma voix. Mais est-ce que je suis pas immunisée par rapport à ça ?
Non, je ne crois pas. C'est ce qu'on avait évoqué au début de la pandémie, hein, avec le professeur Raoult, notamment sur ses défenses. A priori, non, on a vu que c'était pas. Et puis ça dépend des personnes, ça dépend beaucoup des personnes. Enfin, je suis pas médecin, donc. Mais on relaiera votre question. En tout cas, merci, Christine, d'avoir été avec nous ce matin. Faites attention quand même à vous et passez une bonne année à l'écoute, évidemment, de Sud Radio.
Et juste après 9h, Éric Revel sera avec nous. Et Revel en campagne, à tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h04, 0826-300-300, vous voulez parler de l'actualité, commenter bien entendu, ou parler de votre quotidien, l'antenne vous est ouverte. Et en attendant, c'est Éric Revel, le grand retour d'Éric Revel est avec nous. Revel en campagne.
Oui, bonjour Éric Revel.
Bonjour, Patrick.
Revel en campagne, c'est notre nouveau rendez-vous à partir d'aujourd'hui, et évidemment jusqu'à l'élection présidentielle, et même au-delà, puisqu'il y aura les législatives, nous allons vous proposer toute une série de rendez-vous et de rubriques et de chroniques et d'émissions sur Sud Radio pour essayer de comprendre évidemment cette campagne électorale, les propositions des candidats ou parfois l'absence de propositions sur certains sujets également à travers cette chronique, mais d'autres rendez-vous qui vont venir également du matin au soir, de la semaine au week-end sur Sud Radio. Alors, Éric Revel, avec vous chaque matin, on passera au crible en fait une question. Là, c'est le bilan politique et sociale d'Emmanuel Macron. Alors, on va se focaliser un petit peu sur le bilan économique, notamment.
Oui, alors, on va parler du bilan économique, mais je vais vous parler quand même du bilan politique et social, parce qu'en fait, avant qu'Emmanuel Macron mette en place un projet, le candidat, il essaie de se construire un bilan depuis quelques semaines, quelques mois, vous l'avez peut-être noté. D'ailleurs, il est aujourd'hui à Nice pour inaugurer cette maison de la sécurité, dont il va poser la première pierre. D'ailleurs, Hervé Morin, tout à l'heure, révélait que peut-être cette maison n'a même pas son permis de construire.
Alors oui, ça c'est étonnant ça.
Alors, bon, on vérifiera, mais en tout cas ça veut dire que le président de la République, sur des domaines où il est plutôt léger, la sécurité par exemple, essaie de se construire un bilan. Mais si vous regardez à côté de ce bilan sécuritaire, le bilan politique et social du président de la République, vous rendez compte que la société française n'a sans doute jamais été aussi fracturée qu'elle l'est aujourd'hui. Socialement, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, ça c'est à mettre au débit, évidemment, de son bilan. Et puis, ce « en même temps » qu'il a porté politiquement, à mon sens, a hystérisé la démocratie française. Et d'une certaine manière, ça a fait fleurir ce qu'on appelle aujourd'hui les extrêmes. Je vais vous citer Thomas Piketty, vous savez, l'économiste de gauche, ultra-gauche, disent certains. Il dit « Emmanuel Macron porte une responsabilité écrasante dans la droitisation du paysage politique français ». Thomas Piketty. Il faut sans doute aérer le système démocratique français, parce que de ce point de vue-là, le bilan politique d'Emmanuel Macron est un bilan non seulement fragile, mais à mon avis qui est néfaste à la société française. Finalement, on a envie de dire, Monsieur le Président, rendez-nous le clivage droite-gauche.
Oui, c'est ça. Sauf qu'il y a eu aussi la crise sanitaire qui est passée par là, et qui, alors, n'a pas fait de cadeau.
Alors quoi, justement, la crise sanitaire, ça nous permet de parler du bilan économique, Patrick. Oui. Vous avez entendu Bruno Le Maire qui explique, formidable, on a une croissance historique de 6% en 2021. Oui, sauf qu'on avait une récession historique à cause de la crise sanitaire, une année plus tôt. Donc en réalité, ces 6% de croissance qu'on voudrait porter au crédit du bilan économique d'Emmanuel Macron, bah c'est un juste rattrapage des choses. Heureusement que la croissance française a rebondi en 2021. Heureusement que cette croissance est porteuse d'emplois. Sinon, ce serait un fiasco total. Mais à mon sens, tous ces éléments très positifs qui sont mis en avant, parce que la campagne commence à pointer son nez, ne sont que des paravents, ne sont qu'un écran de fumée.
Oui, paravents, dites-vous. C'est vrai que les chiffres du commerce extérieur, par exemple, bah, affichent un autre visage de l'économie française. Quoi.
Ah oui, alors j'aurais pu aussi vous parler de la dette, parce que le quoi qu'il en coûte l'a alourdi. Mais,
non, non, mais on aura l'occasion de revenir.
Mais la dette n'est pas seulement... Sujets. La dette n'a pas explosé qu'à cause des aides sociales qui ont été dispensées pendant la crise sanitaire. On est à 2840 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire 116% du PIB. Je vous rappelle que les fameux critères de Maastricht, on ne doit pas dépasser 60%. Nous, on a doublé. Alors, vous me parlez du commerce extérieur. Je regardais les chiffres. En novembre, on n'a jamais atteint un tel niveau de déficit du commerce extérieur français. On est à moins 9 milliards d'euros sur un mois. Sur l'ensemble de l'année, il faudra attendre février pour avoir les résultats, mais sur l'ensemble de l'année, on va être à moins 78, moins 80 milliards d'euros de déficit sur le commerce extérieur. Alors que l'Allemagne, avec le même euro, est à plus de 100 milliards. Cet effondrement, en fait, du commerce extérieur, à mon avis, masque très mal l'effondrement de l'industrie française. Il reste peut-être pas grand-chose de ce qui s'est passé pendant 5 ans autour d'Emmanuel Macron. La désindustrialisation, elle n'est pas nouvelle. C'est vrai, elle n'est pas nouvelle. Mais, à part la création d'un haut commissariat, avec François Bayrou, haut commissariat au plan. On a un haut commissaire, mais on attend toujours le plan. La désindustrialisation a continué sous Emmanuel Macron. On perd des parts de marché. Et parce qu'on perd des parts de marché, eh ben notre commerce extérieur continue de s'effondrer. Emmanuel Macron, vous savez, c'était Jupiter sur son Aventin. Il rêvait de la France comme une start-up nation. Il a attendu finalement la crise sanitaire pour se rendre compte que les unités de santé, les unités de production de masques étaient parties ailleurs, était parti en Asie.
Oui, c'est ça. La mondialisation qui est en demi-teinte pour l'économie française, quoi.
Ah oui, alors j'aime bien votre euphémisme. Oui, c'est pas en demi-teinte. La mondialisation, on peut le dire, elle a plumé une grande partie de l'outil industriel français. Au début de son quinquennat, Emmanuel Macron a regardé passer les trains du Made in France. Mauvais diagnostic. Mauvais diagnostic. L'économie française est plombée par sa dette en 2022. Elle est dans une situation difficile. Donc oui, il faut le dire, le bilan économique, en dépit de ce que nous vend Bruno Le Maire, le ministre des Finances, ce bilan économique d'Emmanuel Macron, qui va donner lieu à beaucoup d'analyses, il n'est pas bon.
Oui, merci à vous, Éric Revel, chaque matin, Revel en campagne, pour aborder une question. Réaction, évidemment, avec vous, Thierry Guerrier. Emmanuel Macron, finalement, d'ailleurs, on le voit dans sa campagne telle qu'il a commencé, il ne défend pas son bilan, mais finalement, il fait des propositions un peu pour l'avenir, non ? Vous n'avez pas ce sentiment ?
Je pense que je croyais avoir compris que la grande émission sur TF1 de 2 heures de fin décembre, c'était une façon de
solder, de conclure
cette phase bilan. Ce n'est pas tout à fait le cas, comme le montre le déplacement aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes. Mais en effet, il y a un
déplacement sujet... là sur la sécurité.
En particulier. Ouais. Non, mais donc c'est la preuve que ce n'est pas tout à fait fini. Le président n'ayant pas encore formellement, malgré l'interview dans le Parisien il y a 2 jours, il y a quelques jours, malgré ce fracas autour du verbe emmerder, visiblement, n'a pas encore conclu cette séquence, parce qu'il n'est pas encore officiellement en campagne, moment où il pourrait se projeter complètement dans ses propositions. Réindustrialisation, dette, commerce extérieur, je suis assez d'accord avec Éric Revel, il y a là des points de faiblesse importants pour la France, même si à mon avis, c'est mon point de différence avec Éric, ce n'est pas le fait exclusivement ni du président de la République, ni du gouvernement. À cet égard, par exemple, sur les questions de santé, deux points, sur les questions de santé, le président de la République lançait déjà depuis 3 ans un projet, bien avant le Covid, un projet pour essayer de redonner des moyens aux industries de santé, en particulier aux laboratoires français. Avant le début de l'été, il a réuni le fameux CSIS, le comité des industries de santé qui sont les grands patrons de notamment des laboratoires pharmaceutiques qui siègent en France ou qui développent en France, français ou étrangers, et il a promis 7 milliards d'euros. Il a annoncé la création d'une agence nationale pour le développement des industries de santé et de la recherche, surtout, qui vont jouer un rôle très important. Voilà un exemple. Sur l'agroalimentaire, en revanche, c'est assez intéressant parce que la question posée par Éric Revel sur la question de la désindustrialisation ou de la réindustrialisation, il y a un secteur sur lequel, en effet, nous avons encore une part de souveraineté que nous sommes en train de perdre encore. C'est l'agriculture. Cocasse de voir un candidat comme Fabien Roussel, communiste hier, sous prétexte de dire avec ses mots de façon assez simple et directe, je voudrais pouvoir permettre à tous les Français d'accéder tout le mois à des produits de qualité pour avoir du vin, de la viande et du fromage, se faire attaquer sur tous les réseaux sociaux par l'extrême gauche, très minoritaire, vegan. Mais qu'est-ce que disait Fabien Roussel? Qu'est-ce qu'il dit? Évidemment, il y a une question de pouvoir d'achat, mais il dit aussi les agriculteurs et notre souveraineté agroalimentaire, nous devons la développer, nous devons la maintenir aujourd'hui, alors qu'il y a par exemple ce projet Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, ce projet européen qui veut à nouveau ajouter des normes supplémentaires écologiques, notamment pseudo-écologiques, à la production agricole, et ce faisant nous ferait perdre, nous Français, mais les Hollandais aussi, ou les Allemands, une forme de souveraineté alimentaire.
Deux choses d'abord.
Et au demeurant, le président de la République essaie de lutter contre cette imposition de nouvelles règles venues de la Commission européenne. Il le fait avec Thierry Breton, par exemple, le commissaire européen français.
Oui, d'abord, avant que le Parti communiste français se fasse plumer ses électeurs par le Rassemblement national, dans les années 80, les slogans du Parti communiste, c'était « Produisons français ». Justement, ça a toujours été cela.
Absolument.
Donc, moi, je trouve l'initiative de Fabien Roussel très intéressante. Et ça, c'est intéressant de voir, parce que Fabien Roussel, non seulement il est surprenant sur cette question-là, mais si vous regardez son programme sur les questions sécuritaires, vous allez voir qu'il a amorcé, que le Parti communiste français a amorcé un vrai virage.
Ouais. Maintenant, mais il se fait été de réac du coup par toute l'extrême gauche.
J'entends Thierry Guerrier m'expliquer qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec moi, car Emmanuel Macron n'est pas totalement responsable de l'effondrement du commerce extérieur français et de la désindustrialisation, mais pardon, quand même. Ça veut dire que quand il est arrivé au pouvoir, Emmanuel Macron, en 2017, il n'avait pas fait le bon diagnostic. Parce que s'il avait fait le bon diagnostic sur la désindustrialisation de la France, qui avait commencé avant lui, alors il aurait peut-être pris des mesures dès 2017, non pas sur les questions de santé, parce que personne ne pouvait imaginer la crise sanitaire, mais dans d'autres secteurs où la France a perdu un paquet de marques. Regardez ce qui s'est passé sur Alstom, regardez ce qui s'est passé sur Pechiney, regardez, il y a plein de grandes marques qui ont été absorbées par des groupes étrangers. C'était l'époque où Serge Chiruc, le patron d'Alcatel, expliquait qu'on pouvait faire en France des productions sans entreprise. C'était le fameux Fabless.
Sans usine. On s'est gouré.
Mais Emmanuel Macron
était probablement convaincu par ça, lui, non?
Bah oui, mais qu'a-t-il fait à partir de 2017 pour réindustrialiser la France, crise sanitaire ou pas? Peut-être pas grand-chose.
Merci, en tout cas, vous avez soulevé un fait de cette campagne autour du commerce extérieur. Chaque matin, Éric Revel sera avec nous, donc à Revel en campagne à 9h05 sur Sud Radio, et vous pourrez réagir au 0826 300 300. Dans un instant, on va ouvrir un autre dossier.
Donc c'est un colloque qui s'est tenu ce week-end à la Sorbonne sur la déconstruction qui a fait polémique. On va en parler avec l'un des co-organisateurs qui s'appelle Pierre-Henri Tavoyot. Il sera avec nous dans quelques instants. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h19, ce week-end, s'est tenu à la Sorbonne un colloque sur la déconstruction qui a fait un petit peu polémique. Pierre-Henri Tavoyau est avec nous, bonjour, merci bonjour. D'être avec nous. Vous êtes co-organisateur justement de ce colloque international. Après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture, donc c'était ce week-end. Et vous êtes aussi maître de conférence en philosophie à la Sorbonne.
Oui, alors vous allez nous définir ce qu'était ce colloque, ce qu'il a apporté. Alors il a été au centre aussi de polémiques, d'où d'ailleurs un autre invité qui sera avec nous et qui va intervenir dans un instant, qui lui était contre un peu la tenue de ce colloque. Quelle était l'idée? Alors c'était contre la déconstruction, contre le wokisme. Alors il faut redéfinir, je pense aussi pour les auditeurs, pourquoi alors ce mouvement en fait du wokisme que vous combattez en quelque sorte, quoi.
C'est surtout pas tellement un combat, c'est surtout un débat oui. qui doit s'ouvrir, parce qu'on a le sentiment effectivement que un mouvement qu'il faut identifier et définir en effet, parce que c'est capital, est en train de tuer ou en tout cas d'amoindrir la liberté de penser, la liberté académique au sein des universités, et que ce mouvement n'est pas forcément palpable et visible de l'extérieur de l'université. Mais voilà, on le sent monter. Le but de ce collège, c'était de faire une sorte d'état des lieux. Et au départ, effectivement, de tenter de définir ce que c'est que le wokisme, ou plutôt la déconstruction, parce que c'est un mouvement philosophique intéressant. Hein. Il y a une bonne déconstruction. D'ailleurs, on peut dire que toute la philosophie moderne, en un sens, c'est une forme de déconstruction des dogmes du passé.
Alors, c'est une déconstruction de quoi, oui, justement.
Oui, justement, c'est ça. C'est de dire, on peut dire qu'avec Descartes, par exemple, la table rase, c'est une déconstruction des savoirs, des dogmes des religions anciennes, avec l'idée qu'au fond, nous sommes des humains et donc on doit tout passer au crible de la critique. Ça, c'est le premier âge de la déconstruction. Il y a un deuxième âge de la déconstruction qui est l'âge qui commence avec Schopenhauer ou Nietzsche, donc on fait un peu de philo là,
oui, oui.
Qui consiste à dire, mais même les idées produites par les humains, il faut quand même les regarder de près, il faut, comme dit Nietzsche, philosopher avec le marteau, c'est-à-dire détruire les idoles, le vrai, le beau, le bien, tout ça, qu'est-ce que ça cache? Ça, c'est le deuxième âge de la déconstruction. Puis il y a un troisième âge qui émerge notamment en France, dans ce qu'on appelle la pensée 68. Ce troisième âge, c'est l'idée que, pour une part, de répéter le deuxième âge, et c'est ce troisième âge qui va déboucher sur ce qu'on peut appeler, en effet, la déconstruction, le wokisme, qui se caractérise par l'idée, on peut dire, quatre idées essentielles. Première idée, toute la réalité, tout le monde, c'est un rapport de dominant-dominé. La seule grille de lecture, ce qu'on trouve par exemple chez Marx avec la lutte des classes, hein, tout ce que nous vivons, c'est un rapport dominant-dominé, c'est la grille de lecture exclusive. Deuxième idée, le comble de la domination, c'est le moment colonial, c'est-à-dire la domination du Nord sur le Sud, du patriarcat des hommes sur les femmes, de la technique sur la nature, et donc c'est c'est une domination absolument générale.
Ce qui n'est pas complètement faux. Non.
Oui, tout à fait, c'est pas complètement faux.
Bien sûr.
Simplement, les colonisations, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu ailleurs, il y en a eu dans d'autres civilisations.
Bien sûr,
voilà. Donc à partir de là, cette domination, troisième idée, il y a eu une décolonisation. Mais ce n'est qu'illusion, ce n'est que poudre aux yeux, ce n'est qu'apparence. En vérité, la domination se poursuit. Par exemple, le patriarcat est aujourd'hui beaucoup plus fort, selon cette thèse, que par le passé. La colonisation est beaucoup plus violente que par le passé. Et donc, quatrième idée, il faut se réveiller. Voilà, il faut se réveiller parce que c'est
le wokisme, c'est ça.
Il faut se réveiller woke. Et cinquièmement, j'en ajoute une cinquième, et là on bascule effectivement de l'observation de la théorie à la pratique. Il faut cancel, il faut annuler, c'est-à-dire qu'il faut décoloniser, dégenrer. Il faut absolument, parce que cette domination est absolument abominable, il faut tout faire pour passer de la théorie à la pratique.
Alors voilà, bon, donc ça c'est l'état des lieux. Et alors, à l'occasion de ce colloque, vous vouliez montrer ce qui se passe dans les universités, c'est ça? La manière dont il y a la cancel culture est développée et le wokisme.
Le diagnostic.
Est-ce que c'est vrai d'ailleurs?
Et le diagnostic, on peut en discuter.
Ouais.
Voilà, donc ça, c'est un débat qui doit avoir lieu. Là où ça devient problématique, donc le premier objectif de ce colloque, c'était de discuter de ce diagnostic. Est-ce que tout se réduit à la domination? Par exemple, les rapports entre hommes et femmes, est-ce que c'est de la domination, ou est-ce qu'il n'y a pas par hasard un truc qu'on appellerait l'amour, voilà, qui aussi peut caractériser les rapports entre les femmes? Non. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est là, pour le coup, d'alerter, et c'est en ce sens que c'était aussi un colloque politique, d'alerter sur le fait que là, on sortait du cadre des sciences, dans la mesure où on passe de la théorie à la pratique, de la science au militantisme, et qu'on va tout moraliser. C'est-à-dire qu'on va moraliser les statues, on va vouloir déboulonner, on va vouloir considérer que Colbert, par exemple, puisque c'est un méchant colonialiste, eh bien, il faut le déboulonner, il faut le taguer, il faut le supprimer, il faut l'annuler. Et donc là, on a une vision révisionniste de l'histoire. C'est-à-dire l'idée, moi, si vous voulez, je suis philosophe, si je lis Aristote, eh bien, je trouve Aristote un grand penseur, mais Aristote défend l'esclavage par nature. Mmh. Voilà, il dit que c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il faut arrêter de lire Aristote parce qu'il défend l'esclavage par nature ? Voilà, eh bien, je dis non. Voilà, il faut simplement comprendre le contexte, il faut analyser, ça ne veut pas dire qu'il faut approuver, bien sûr, mais on peut analyser les choses et remettre tous ces auteurs et tous ces éléments dans le contexte. Donc, moi, ce qui m'a impressionné dans ce colloque, c'est que, d'abord, c'est un colloque de très bonne qualité, vraiment de qualité même exceptionnelle.
Beaucoup d'intervenants,
ouais. Avec des personnalités, d'ailleurs de tout courant politique, hein, j'insiste.
Alors oui, parce qu'on dit oui, mais c'était la droite et l'extrême droite qui étaient réunies lors de ce colloque. Non, mais oui, je reprends ce qui a été défilé, et on y reviendra dans un instant, sur les réseaux sociaux. Oui.
Les auditeurs à voir le programme du colloque, il y a des personnes qui sont identifiées à gauche, simplement, effectivement, c'est en effet la gauche républicaine, la gauche rationaliste, la gauche laïque. J'allais dire la vraie gauche. Et puis, il y a des personnalités, effectivement, de droite, il y a des personnalités conservatrices, il y a potentiellement aussi des personnalités réactionnaires. Mais voilà, c'est l'idée. Et il y a aussi beaucoup de discussions au sein de ce... Par exemple, l'interprétation de ce phénomène a fait l'objet de discussions. Il y a des nuances, il y a des oppositions, il y a des prises de position sur les solutions aussi qui n'ont pas été toujours les mêmes. Donc voilà, c'est pas un front uni de la réaction.
On a l'impression qu'il était temps de discuter, de mettre ce problème sur la table, puisqu'on va arriver à pas mal de censure et pas mal de choses. Est-ce que ça s'ouvre aussi ? On a l'impression que quasi, je vais aller un peu loin, quasi quotidiennement, on arrive à de nouvelles discriminations. C'est-à-dire que chaque jour, on nous invente une nouvelle discrimination.
Oui, c'est une sorte de la course à l'échalote, à la pureté. C'est-à-dire que là, pour le coup, effectivement, encore une fois, à partir du moment où on considère que le réel, c'est de la domination, on va toujours trouver, c'est-à-dire une file d'attente à l'interlude d'un spectacle, on va dire, bah, vous voyez, la file d'attente chez les toilettes femmes et absente chez les toilettes hommes, c'est de l'injustice. Et on va accumuler, parce qu'on a uniquement cette grille de lecture en tête. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ça le moment de la reconstruction, parce que ce colloque, il visait... Pas à déconstruire la déconstruction, c'est une attitude plutôt vaine.
Mais à trouver des terrains d'entente.
Des terrains d'entente, c'est la grande diversité des universitaires fait que c'est très difficile. Mais c'est d'essayer de poser les jalons, de se dire, essayons de pluraliser les grilles de lecture. Oui, il y a de la domination, oui, il y a de la discrimination dans notre monde. Notre monde n'est pas parfait, bien sûr, mais il y a aussi des forces de recomposition, des liens. Il y a ce souci de l'histoire, ce plaisir de la culture, cette saveur de la complexité qui fait que, eh bien, on doit aussi regarder d'autres clés de lecture sans abolir effectivement cette première.
Allez, on va continuer avec vous, Pierre-Henri Tavoyot. Donc, vous étiez co-organisateur de ce colloque qui s'est tenu ce week-end. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver en ligne sur votre site.
Oui, alors on n'est pas des pros, donc c'est une version qui n'est pas absolument parfaite, mais
ah bah c'est encore mieux quand c'est pas parfait.
Vous justement, avez l'enregistrement pour le moment, les vidéos.
Et nous serons avec Olivier Compagnon dans un instant, qui lui était plutôt contre la tenue, en tout cas de ce colloque, et qui nous dira pourquoi. Restez avec nous. Vous êtes bien sûr Sud Radio.
Et bien sûr, invité au 0826-300-300 pour participer au débat. Tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h29, on revient sur ce colloque, hein, après la déconstruction avec Pierre-Henri Tavoyot qui est avec nous et qui est co-organisateur. Et avec nous aussi, par Zoom, Olivier Compagnon est là, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien.
Historien. Alors, avec Pierre-Henri Tavoyot, là, donc on a vu les raisons pour lesquelles ils ont organisé ce colloque. Vous étiez contre. Et d'ailleurs, vous l'avez baptisé colloque de la honte. Et j'ai vu que vous avez beaucoup réagi avec d'autres, hein, évidemment, pendant tout le week-end. Pourquoi vous estimez que c'était un colloque de la honte ?
Alors, merci de me donner la parole. D'abord, je voudrais préciser que je n'étais pas contre la tenue de ce colloque parce que je ne me sens pas du tout l'âme d'un censeur, et d'autre part que je ne suis pas identifié et je ne me revendique pas comme un woke ou comme un décolonial.
D'accord.
Je ne suis pas là, disons, pour opposer une défense du wokisme à mon collègue. Ce qui m'a beaucoup gêné à l'écoute de ce colloque, que d'ailleurs je n'avais pas prévu de suivre en entier, mais qui m'a en fait captivé par ses contenus, c'est que l'université qui a été décrite dans ce colloque, notamment une université soumise désormais au totalitarisme woke, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, j'enseigne, j'ai à peu près le même âge que mon collègue, j'enseigne depuis 25 ans en gros. J'ai vu évidemment l'université française se transformer. J'ai vu les thèmes de recherche de l'université française se transformer parce que l'université se transforme à l'aune des transformations de la société. En revanche, ce que j'ai entendu dans ce colloque, à savoir qu'on ne pouvait plus organiser d'événements scientifiques, à savoir que toutes les revues aujourd'hui étaient dominé par des woke qui laissaient passer des articles qui n'avaient aucune scientificité, que tous les recrutements à l'université étaient soumis désormais à ce totalitarisme, tout ceci n'existe pas et j'ai essentiellement entendu parler d'un énorme fantasme. D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai été frappé par le fait que aucun argument véritablement précis contre telle ou telle thèse qui aurait été soutenue en France de manière absolument scandaleuse n'a été développé pendant ce colloque. J'ai entendu de grandes incantations, de grandes dénonciations, jamais précisées, manquant dans presque toutes les communications, une ou deux ont essayé quand même d'apporter des données, mais manquant de faits concrets. Autrement dit, j'estime qu'on a essentiellement parlé d'un fantasme, et d'un fantasme en tout cas que mon expérience d'universitaire ne m'a jamais donné à voir.
Oui, alors Pierre-Henri Tavoyot, qu'est-ce que vous répondez à Olivier Compagnon qui dit « Moi je suis comme vous à l'université, certes il y a des transformations, certes il y a des sujets de thèse par exemple, etc. qui évoluent, mais un peu comme la société, et votre colloque c'était un colloque de fantasme quoi. »
Oui, je trouve que pour un fantasme, je suis étonné que ça suscite autant de réactions et de la part des opposants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors si un fantasme, on le laisse agir et puis personne s'en intéresse puisque ça n'existait pas. Ça, c'est un raisonnement qu'on trouve souvent. Hein. Un, le woke, ça n'existe pas. Deux, c'est pas nouveau. Trois, c'est formidable.
Voilà, non, il dit que ça n'existe pas. Vous exagérez grosso modo ce qui se passe.
Il y a deux choses. C'est soit on dit justement... ça n'existe pas, donc c'est exagéré. Moi, personne n'a dit que toute l'université était dominée par ça, que tous les articles étaient dominés par ça. On sent monter quelque chose, voilà, une nouveauté. Et sur cette nouveauté, effectivement, qui pose une contrainte sur l'action académique, il y a une forme de vigilance pour faire en sorte que la pluralité soit respectée. Il ne s'agit pas d'interdire, il ne s'agit pas de se protéger chacun contre la critique. Il faut justement faire en sorte que, selon l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, eh bien, les agents publics ont des comptes à rendre à la société. Or, souvent, dans la discrétion et dans la complexité de nos universités, eh bien, il y a des colloques qui ont lieu de manière extrêmement anonyme, discrètes, et qui sont très surprenants et très hors justement des critères d'évaluation par les pairs.
Mais est-ce que vous pouvez donner un exemple ? Oui, allez-y, Olivier Compagnon.
Je peux donner deux exemples, parce qu'il n'y a pas d'exemple. La statue de Champollion, il y a eu un extrêmement précis...
C'est pas un colloque.
Non, leçon inaugurale au Collège de France. Bon, c'est très précis.
Dites-le pour les auditeurs qu'ils comprennent bien ce qui s'est passé.
Le fait que la nouvelle personne, historienne qui arrive au Collège de France, fait un topo extrêmement critique à l'égard d'une statue de Champollion qui serait l'incarnation... De la puissance et de l'oppression coloniale. Or, il se trouve que cette statue de Champollion est la propriété de l'État égyptien qui l'a commandée. Donc, c'est pas une domination coloniale. Deuxième exemple, les tapisseries de la Villa Médicis qui ont été décrochées comme étant des exemples de domination coloniale et d'éloges de l'esclavage. Or, il s'avère que si vous regardez un peu ces tapisseries, il y a vraiment...
Bon, ça, c'était pas à l'université, quand même.
Mais c'est un ensemble général. La Villa Médicis, c'est un haut lieu de la culture française, hein, reconstruire les sciences et la culture, donc il faut être vigilant sur ces questions. Et il y a toute une flopée, effectivement, de colloques qui vont dans ce sens. Mais en occurrence, il ne s'agit pas de dire que toute l'université, je fais très bien mon travail dans des conditions sereines, mais je sens monter cette idée, et donc il s'agissait effectivement d'essayer de repérer cette montée en puissance.
Oui, Olivier Compagnon.
Je suis content de vous entendre en ces termes-là, parce que vous êtes effectivement beaucoup plus nuancé que beaucoup des collègues qui ont pris la parole pendant ce colloque, et qui, je le répète, ont dénoncé un totalitarisme, et ont très fréquemment, quasiment dans toutes les interventions, assimilé le wokisme au stalinisme, parfois même au nazisme, ce qui n'est pas rien quand même comme assimilation. Donc je suis content déjà de vous entendre beaucoup plus modéré. D'autre part, moi je voudrais vous dire, je travaille dans un département qui est dans un département d'histoire, enfin un département plutôt pluridisciplinaire, qui est très sensible à cette question, puisque je suis un spécialiste de l'Amérique latine.
Oui.
Et vous n'êtes pas sans savoir que ce qu'on appelle le mouvement décolonial est né en Amérique latine. Et donc nous avons été en prise depuis le début des années 2000 avec toutes ces questions. Évidemment, nous avons donné à voir à nos étudiants, au travers de notre revue, ce qu'était ce mouvement décolonial. Nous l'avons discuté, nous avons publié un certain nombre d'éléments là-dessus. À titre personnel, lire les décoloniaux auxquels je n'adhère pas, a transformé ma manière de faire de l'histoire, m'a permis de poser d'autres questions que je ne posais pas dans les années 90 lorsque j'étais un jeune thésard, et je ne vois absolument pas en quoi une scientificité aurait disparu en mettant en place un dialogue avec ces mouvements-là. D'autre part, il y a une chose que je veux dire également, bon, ça mériterait un vrai colloque, c'est qu'on a beaucoup dit « tout cela vient des États-Unis ». Alors, ce n'est pas entièrement faux, mais je voudrais quand même dire
parti de France et parti aux États-Unis, et ensuite aux États-Unis, alors, revenu alors, en voilà, France.
Parti de France, la French Theory, etc.
Mmh. Et oui, c'est vrai. Ouais.
Je voudrais quand même préciser que, effectivement, hein, il se passe des choses aux États-Unis qui n'ont aucun équivalent en France.
Ouais.
Un certain nombre de départements universitaires américains sont organisés en dehors de toute insertion disciplinaire. Et c'est ce qui paraît, d'ailleurs, moi j'ai pu être dans certains de mes travaux très critique contre des productions sur l'Amérique latine émises depuis les États-Unis. En France, si vous voulez, ce danger-là n'existe pas parce que nous fonctionnons selon des bases résolument disciplinaires, le système universitaire fonctionne sur cette base-là, et à partir de là, je dirais que le contrôle scientifique est infiniment plus puissant. Que ce soit au travers des revues qui publient des articles, que ce soit au niveau du Conseil national des universités, ou que ce soit au niveau de l'organisation de colloques, etc., etc. Et moi, par exemple, effectivement, hein, en tant que rédacteur en chef d'une revue sur l'Amérique latine, je reçois parfois des articles provenant d'Amérique latine, provenant d'Europe, provenant des États-Unis, qui ne me semblent pas répondre à des règles de scientificité, enfin, on ouais. évalue collectivement, bien entendu, et qui sont évidemment rejetées. Cette idée qui a traversé tout le colloque, comme quoi on laissait tout passer, etc., c'est entièrement faux. On trouvera toujours des exemples. Hein. Je suis d'accord avec vous, on trouvera pas toujours un exemple, deux exemples, trois exemples.
Pierre-Henri Tavoyot, sur ce que dit Olivier Compagnon à l'instant.
Là-dessus, on se retrouve. Vous avez dit vous-même, dans votre propos, à l'instant, ça mériterait un vrai colloque. Donc, moi, je suis intégralement d'accord avec vous. Ça mériterait un vrai colloque. Donc, pourquoi être contre le colloque qui vient d'avoir lieu
Alors, finalement, il a dit qu'il n'était pas contre. Mais il avait dit.
Bon, voilà, il y a eu.
Alors, écoutez.
Alors, je ne sais pas vous, ouais. Mais il y a eu une tribune du Monde. Franchement, mais les choses sont totalement inversées. Qui refuse les débats, qui exige des autorités qu'elles protègent. Alors, je ne sais pas qui, du coup, puisque ça n'existe pas, contre la critique. Ouais. Donc, on est dans un truc sidérant. Pourquoi des réactions aussi violentes, y compris d'ailleurs dans mon université, des syndicats, alors que ce colloque n'avait pas lieu dans un cadre universitaire, hein, pourquoi des réactions aussi violentes pour quelque chose? Moi, honnêtement, cette réaction de violence inouïe, me dit qu'il y a quelque chose, effectivement, que nous avons levé. Le succès du colloque et le fait que nous ayons eu 1200 personnes inscrites en bloquant les inscriptions, que nous ayons eu des messages de collègues qui disaient « c'est insupportable, enfin vous ouvrez le débat », voilà, il y a quelque chose là qui méritera, je vous le conseille.
Non mais ça c'est sain d'ailleurs, Olivier Compagnon comme vous, Pierre-Henri Tavoyot, c'est assez sain que finalement l'université qui est quand même aussi, qui peut transformer et avoir beaucoup d'influence sur la société française, qu'il y ait des débats au sein de l'université. S'il n'y en a pas là, alors pardon, absolument. Mais il n'y en aura plus. Heureusement, absolument. Il y a les médias qui sont là encore pour ça, mais ce n'est pas si évident. Olivier Compagnon.
Absolument. Encore faudrait-il qu'il y ait débat. Le problème, c'est aussi la composition très homogène des intervenants de ce colloque qui n'ont pas
homogène
réellement...
En quoi homogène en quoi
homogène en quoi homogène dans une vision bah, par exemple il n'y avait personne pour porter
Nathalie
la voix
Heinisch,
la voix
Dominique
que je
Schnapper porte, homogène en quoi
alors là, les auditeurs connaissent pas toutes ces personnalités ouais. Mais oui vous vouliez dire quoi Olivier Compagnon tout. Continuez
alors je voulais dire plusieurs choses je voulais aussi rappeler quand même le fait que il y a un an personne ne parlait de wokisme dans l'université et je voulais parler quand
personne
même
n'osait
rappeler les origines non, je voulais rappeler les origines très politiques de cette initiative, puisque tout cela est parti des déclarations de Jean-Michel Blanquer qui ont suivi immédiatement Jean-Michel Blanquer d'ailleurs, qui a été enseignant dans mon propre département universitaire, c'est intéressant, qui ont suivi immédiatement l'assassinat de Samuel Paty où il a dénoncé la complicité intellectuelle d'un certain nombre d'universitaires qui soutenaient l'islamo-gauchisme. Il y a derrière ce colloque un projet politique et je pense, enfin c'est pas je pense, c'est une évidence absolue quand on regarde
ah bah
le
derrière
casting.
Le wokisme, il y a un projet politique hein, de manière ouais, Olivier c'est... Compagnon, on peut pas le nier
ça, n'existe
non
pas. Donc voilà.
Derrière
non,
le wokisme,
je pense que non. Mais attendez, je pense
attendez.
Que
la déconstruction, la décolonisation, le wokisme, Olivier Compagnon, c'est porté par certains politiques.
Non. Tout le colloque a été parcouru par une confusion entre D'une part, ce qui se passe à l'université. Oui. D'autre part, ce qui se passe au travers de mouvements sociaux et politiques. Oui. Il y a bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des gens qui déboulonnent des statues. C'est une évidence absolue. Il y a des gens qui déboulonnent les statues. On le sait, c'est documenté par les journalistes, etc. Il y a eu une confusion permanente, et d'ailleurs, ça se voyait très bien dans un certain nombre d'expressions qui ont été employées pendant le colloque, entre ce qui se passe à l'université et qui, au fond, conduirait à perdre toute forme de scientificité, et des mouvements sociaux qui ont leur radicalité, mais qui n'ont absolument pas aujourd'hui droit de cité dans l'université.
Ah, c'est là où effectivement la porosité entre les deux est à interroger. Voilà, c'est la position des organisateurs du colloque, c'est ouvrons le débat. Il n'y a pas lieu que les politiques interviennent dans ce débat académique, il faut l'ouvrir. Parfois, nous avons l'impression que ce débat ne peut avoir lieu au sein des universités parce que la pression est considérable. Moi-même, j'ai eu un certain nombre de pressions de la part de mes autorités sur l'organisation de ce colloque. Ça prouve qu'il y a un problème. Donc, le débat n'est pas possible dans des
conditions.
Et deuxièmement, une fois que le débat est ouvert, la question des pratiques, et effectivement de la déontologie, du respect de la déontologie, elle aussi se pose.
Bon, mais ça, c'est en tout cas, je pense qu'une porte est ouverte et que le débat pourra continuer. Merci d'avoir été en fait avec nous. Et je pense qu'on refera un débat plus en longueur avec vous, parce que ça le mérite. Et en tout cas, merci d'avoir dialogué entre vous, Pierre-Henri Tavoyot, donc organisateur de ce colloque international qui a eu lieu vendredi et samedi et que l'on peut retrouver. Vous avez dit qu'il n'était pas encore monté, etc. Mais c'est bien aussi quand c'est brut, hein, et que les gens peuvent voir ce qui se dit, etc.
Très, très
sur votre site. Et merci, Olivier Compagnon. Oui, historien de l'Amérique latine à la Sorbonne Nouvelle. Merci à tous les deux. Dans un instant, la France à vos côtés sur un sujet difficile pour beaucoup de personnes.
Difficile, ouais, sont les addictions. Vous savez qu'on est dans le mois de janvier sans alcool. Et ben, on va parler de l'alcool, de la cigarette, du cannabis, de tous les médicaments qu'on a pris pendant le confinement. Comment y remédier? Est-ce que vraiment il y a une accélération des choses? On en parle avec nos invités dans un instant. Vous les témoignez 0826 300 300. À tout de suite.